peut passer au point suivant. C'est le vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale pour l'année 2026. Monsieur Scheuer.
Merci, monsieur le maire. Cette délibération a pour objet le vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale. Alors, concernant la taxe d'habitation, il convient de rappeler que la loi de finances de 2020 avait acté sa suppression sur la résidence principale, et cela de manière progressive jusqu'en 2023. Néanmoins, elle subsiste pour les résidences secondaires et autres locaux meublés qui ne sont pas affectés à la résidence principale. Le montant inscrit au budget primitif de 2026 s'élève à 177 000 euros. Alors, vous noterez une baisse assez substantielle qui est due à deux facteurs. Le premier, eh bien, ce sont de nombreux dégrèvements qui ont été réalisés pour des contribuables qui ont été imposés à tort, et cela représente 92 000 euros. Le second facteur fait suite à une nouvelle réforme qui recentre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires en excluant les locaux meublés faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel. Ce sont par exemple des locaux occupés à titre privatif par des sociétés ou par des associations. L'impact, en tenant compte d'une deuxième vague de dégrèvement, est de 311 000 euros. À noter que la ville a perçu en 2025 une compensation de 174 000 euros. Concernant maintenant la taxe foncière, afin de compenser la perte du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la ville perçoit la part départementale de la taxe foncière en plus de la part communale. C'est un montant de 15,8 millions d'euros qui a été enregistré en 2025, et ce sont 16 millions d'euros qui sont inscrits au budget 2026. Conformément à nos engagements et afin de préserver les ménages et les entreprises, nous décidons de ne pas augmenter les taux d'imposition. Il est ainsi demandé au Conseil et proposé au Conseil municipal de maintenir les taux d'imposition communaux à leur niveau de 2025 et de fixer ainsi les taux d'imposition applicables à la fiscalité directe locale en 2026 comme suit. Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 28,08%, taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 59%, et le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, il s'agit d'un taux de 17,03%. Je vous remercie.
Merci, monsieur Scheuer. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Oui, monsieur Vivet, et puis madame Lonchal.
Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement. Alors, moi, je tiens quand même à apporter une précision sur cette question de fiscalité qui concerne principalement les recettes. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler du budget primitif. C'est déjà faux de dire qu'effectivement, on maintient le pouvoir d'achat ou qu'on maintient effectivement une stabilité de fiscalité pour les entreprises, les commerçants, les artisans, puisque de toute façon, il y a une progression naturelle des taux sur la base d'un indice, alors que la vraie, en économie pure et dure, ça serait de neutraliser cette hausse de pourcentage en la baissant. D'ailleurs, je constate qu'un certain nombre de maires le font dans un certain nombre de municipalités. Donc, déjà, en matière économique, il y a bien une hausse de la fiscalité. Comme vous l'avez dit, monsieur Scheuer, et très justement, aujourd'hui, le problème de fond que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui une petite partie moins en moins importante de contribuables qui financent l'intégralité des services publics du fait de la fin de la taxe d'habitation. Et donc, il y a une hausse assez importante de la taxe foncière, alors qu'il va de 18 à 35% selon les villes. C'est les chiffres qui ont circulé pendant les élections, ils sont assez fiables. Et donc, à un moment, je pense, et on y reviendra tout à l'heure sur le budget, et d'ailleurs, la Cour des comptes a commencé à tirer la signal d'alarme sur le périscolaire et toutes les dépenses, à un moment, il va bien falloir poser la question de qui paye et jusqu'à quand ça va être supportable. Et quand on parle des entreprises, on va prendre des entreprises dans la zone artisanale, on va faire un petit exercice, on l'a fait pendant la campagne avec la fiscalité. Si vous prenez, par exemple, on a tous eu le même imprimeur pour faire notre acte, j'ai fait l'exercice du calcul sur la taxe foncière entre la baisse et la hausse, ça fait 17 000 euros. Donc dans le compte de résultat sur 4 années, c'est pas tout à fait neutre. Donc vous mettez 17 000 plus une autre taxe, parce que derrière, vous avez toute une série d'assiettes qui ont été bougées par les pouvoirs publics, les charges sociales et autres. Donc, à un moment, c'est quand même la question de la compétitivité. Et aujourd'hui, c'est quand même une réalité. Alors, effectivement, on peut après, je sais bien qu'il n'y a pas de débat politique ou pas d'idéologie, comme je l'ai entendu chez un certain nombre de personnes, mais à un moment, il va bien falloir, sur un certain nombre de choix, qu'on pose les débats. Voilà, donc, effectivement, je pense que quand on dit qu'on maintient, c'est faux, il y a quand même une progression.
Madame Longechal.
Oui, je souhaite vous parler d'un autre sujet à propos de ces taxes foncières. Nous parlons chiffres, taux et recettes, mais derrière ces colonnes de budget, il y a aussi une réalité criante. À Ilkirch-Grafenstaden, comme dans toute la métropole, des familles peinent à se loger, des jeunes partent faute de solution, alors que des logements restent vides, parfois depuis des années. Cet état de fait a conduit au classement en zone très tendue de la ville d'Ilkirch-Grafenstaden par arrêté du 2 octobre 2023. 260% d'augmentation des logements vacants en 15 ans. Ce n'est pas une statistique, c'est un scandale social et une aberration économique. Pourtant, le législateur nous a donné les moyens d'agir. Une fiscalité renforcée, des outils pour inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché. Alors, pourquoi ne les utilisons pas ? Ne les utilisons-nous pas ? De nombreuses communes, tant rurales qu'urbaines, se sont déjà emparées du sujet, en s'appuyant sur les outils fiscaux à disposition, tout en accompagnant les propriétaires. Lutter contre les logements vacants plutôt que de construire. Mais chez nous, que fait-on ? On recule, on hésite, qu'il s'agisse des résidences de tourisme comme des logements vacants. Pourtant, la loi nous permet d'agir, tout est prêt, il ne manque que la volonté politique. Le logement n'est pas une variable d'ajustement, c'est un droit, à nous de le défendre.
Alors, Monsieur Vivet, je vous confirme, il y a bien un maintien des taux d'imposition communaux. Je n'ai pas dit autre chose que cela. Concernant la conjoncture, c'est déjà, je pense, un effort à la fois de le maintenir et de ne pas augmenter, parce que les communes et les collectivités sont nombreuses à augmenter ces taux dans une conjoncture qui est, et vous le soulignez, compliquée, de plus en plus compliquée.
Merci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un débat qu'on a souvent eu dans cette assemblée. Je pense que c'était effectivement pas forcément le choix le plus judicieux qu'il y ait eu au niveau national de supprimer la taxe d'habitation et de faire peser sur une toute petite partie l'effort global du fonctionnement, notamment par exemple d'une commune, mais il y a d'autres strates qui aujourd'hui bénéficiaient de cette taxe foncière. Et donc c'est vrai que c'est plus juste à mon sens de répartir l'impôt sur un plus grand nombre de contributeurs que parfois réduire le spectre sur lequel on prélève cet impôt. Et c'est une des réflexions qui avait déjà été faite pendant cette enceinte de conseil municipal, c'était de se dire que on avait parfois certains habitants d'une commune qui se retrouvaient effectivement à ne plus être contributeurs directs du fonctionnement des services de la commune sans finalement qui ne soient, par exemple, bénéficiaires par leur famille de certains services publics qui sont offerts, comme la restauration scolaire ou autres, où on participe. Et c'est vrai que ceux qui, finalement, ne bénéficient pas de certains services publics locaux, en fait, sont des usagers de l'espace public au quotidien dans nos communes, mais ne contribuent pas au fonctionnement de cette commune. Et donc ça pose quand même effectivement un problème aujourd'hui philosophique de qui participe, qui aujourd'hui contribue et qui est l'utilisateur, et aussi toujours cet juste équilibre entre l'usager qui doit payer une partie. C'est souvent des débats qu'on a quand on parle de gratuité, hein, en disant c'est bien de faire de la gratuité pour l'usager, mais en réalité c'est le contribuable qui va devoir prendre en charge l'ensemble de l'effort. Et donc effectivement, je pense qu'il y a un vrai débat philosophique, mais qui malheureusement à notre niveau ici, ne peut pas être complètement résolu, puisque nous ne sommes ni députés ni sénateurs, et nous n'avons en ce sens pas la faculté, en tout cas dans cette assemblée délibérante, de pouvoir délibérer sur ce sujet. Mais c'est vrai que ça commence à poser un souci, quand on regarde aussi dans le budget, c'est ce qu'on verra après, de voir que la dotation globale de fonctionnement progressivement s'étiole, tout comme les reversements faits par l'État, et donc forcément on fait peser à un petit nombre, à une petite minorité de personnes, un effort qui devient de plus en plus conséquent avec des services qui sont de plus en plus exigeants. Et donc c'est sûr que ça pose la question de l'administration des collectivités territoriales, mais c'est finalement pour l'ensemble des collectivités territoriales que ce débat se pose. Mais c'est sûr que c'est une inquiétude qu'on peut partager, en tous les cas, parce que c'est un constat qu'on a fait et on avait eu l'occasion de le dire. Je trouve que ce n'était pas forcément l'idée la plus judicieuse, étant entendu qu'en en général, en plus, ça n'a un effet quand on supprime ce genre de, par exemple, de taxation. Hein, ça a un effet le jour où c'est supprimé parce qu'on est content de ne plus la payer. Et puis, en fait, quelques jours, quelques semaines après, on a oublié qu'on avait cette contribution. Ça s'oublie quand même très vite. Et en réalité, quand on regarde les mécanismes qui sont mis en place pour essayer de compenser, on va rechercher ailleurs ce qu'on a perdu d'un autre côté, puisqu'il y a eu des mécanismes de compensation pour les communes. Et donc forcément, il y a bien quelqu'un qui paye. Et donc ça pose une vraie problématique. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident, en tout cas, à trancher ici. Et c'est pour ça que nous, on avait fait le choix, en tout cas, de maintenir les taux sur lesquels on a vraiment la main, sachant que quand on regarde la progression des bases, c'est de toute façon insuffisant pour couvrir l'augmentation des frais qui nous sont demandés sur l'ensemble des services publics. Et donc, voilà, ça sera une vraie question qu'il faudra se poser. Dans la stratégie budgétaire, je pense, du mandat, c'est quelque chose qu'il faudra établir pour pouvoir avoir des ratios qui se tiennent en ayant le meilleur service public à l'usager, tout en gardant quand même une capacité de pouvoir investir pour nos concitoyens et du coup préparer l'avenir. En ce qui concerne le logement, c'est vrai que c'est une problématique qui est identifiée. Hein. Il y avait eu d'ailleurs au sein de l'Eurométropole de Strasbourg un observatoire des logements vacants qui avait été lancé, qui avait été initié, qui avait permis de commencer à faire en tout cas un diagnostic sans forcément mettre en œuvre des mesures concrètes. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé à nos services déjà avant les élections municipales, de commencer à regarder un certain nombre de sujets. On a le sujet des Airbnb, qui va devoir être un sujet quand même qui va devoir être traité, puisqu'on se retrouve avec des personnes qui, désormais, font plus ce type d'activité de manière, on va dire, occasionnelle, quand ils ne sont pas dans leur logement, mais qui deviennent finalement des hôteliers cachés d'une certaine manière, puisqu'on a le cas, j'y pense, on a le cas en ce moment, par exemple, d'une personne, hein, qui est la sixième maison qu'elle rachète dans la ville et qui, d'une maison, transforme cette maison en 4, 5 ou 6 appartements pour faire du Airbnb. Et donc, c'est vrai qu'à force, ça grignote quand même une partie du parc. Donc là, il y a un vrai sujet par rapport à ce sujet d'Airbnb. Et puis, à côté de ça, il y a le sujet des logements vacants. Donc, il y a eu l'identification. Et donc, on va travailler sur le sujet. Hein, ça fait partie des priorités qui sont aujourd'hui mises en œuvre au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Et comme j'ai quelques facilités à pouvoir travailler sur le plan local d'urbanisme dans les prochains temps, je peux vous dire que ça sera un des sujets qui sera mis en œuvre et que je traiterai avec mon collègue vice-président en charge de la politique de l'habitat. Hein, mais c'est sûr que ça va être une priorité, puisque aujourd'hui, l'intérêt pour nous toutes et pour nous tous, c'est d'éviter l'étalement urbain, c'est d'éviter d'avoir parfois ce qu'on a appelé la bétonisation. Et donc, si on peut loger un certain nombre de personnes et de familles dans des logements qui sont déjà existants et qui, pour un certain nombre, sont en plus en bon état, sont tout à fait habitables, ça serait beaucoup mieux que de continuer parfois certaines dérives qu'on a pu connaître sur le territoire. Mais ça fait partie des objectifs qu'il faudra avoir en tête et sur lesquels il faudra mettre des mesures concrètes. Ça, je partage ce que vous avez dit. Monsieur Vivet.
Un point pour compléter, parce que c'est bien que vous fassiez la transition sur l'Eurométropole. On a parlé de la taxe foncière. Bien évidemment, il y a une partie pour la ville, il y a une partie pour les services de l'intercommunalité. Bon, tout le monde sait que l'Eurométropole, c'est une démocratie indirecte. Hein, il y a un certain nombre d'élus représentants des communes qui y sont. Alors, je sais que la Cour des comptes va se pencher sur la gestion des intercommunalités et des métropoles. Mais à un moment, on peut faire les meilleurs efforts de gestion dans une ville si de l'autre côté, ça flambe. Hein, quand on a lu des plus 18% de hausse de personnel à l'Eurométropole de Strasbourg, des 400 postes de fonctionnaires, des délégations aux affaires européennes qui font doublon, triplon avec le Quai d'Orsay vers un certain nombre de postes, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi avoir un discours de vérité sur les intercommunalités, parce que maintenant, le destin est lié entre les élus, et donc il y a une partie de la fiscalité qui se retrouve aussi dans la gestion de ces EPCI. Donc, on parlait tout à l'heure des entreprises. Si les uns sont vertueux, font des efforts, font des activités, et que de l'autre côté, il y a un troisième acteur où c'est open bar avec un contrôle démocratique qui est quand même assez limité. Il n'y a qu'à voir depuis une semaine ce qui défraye la chronique en matière d'indemnité dans les différentes intercommunalités, et qu'à dire les réseaux sociaux, il y en a plein les postes. Je pense qu'à un moment, voilà, il va falloir avoir un petit discours de vérité sur ce sujet.
Effectivement, en tout cas sur l'Eurométropole de Strasbourg, je pense que la position que j'ai eue sur le mandat précédent avec les personnes qui sont autour de cette table et qui étaient dans mon groupe a toujours été une position constante. On s'est opposé à l'augmentation de la taxe foncière et c'est d'ailleurs pour ça qu'on était dans l'opposition pendant le mandat d'avant. Aujourd'hui, on se retrouve de toute façon dans une situation extrêmement compliquée au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Je vous rappelle qu'on est quasiment au milliard de dettes, que les satellites ont été utilisés aussi pour porter de la dette. Plus de 388 millions d'euros, par exemple, sur la CTS, de dettes supplémentaires. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est extrêmement tendue. Donc de toute façon, ce qui est certain, et c'est ce qu'on partageait avec la nouvelle présidente, c'est qu'on va devoir faire des économies, ajuster un certain nombre de politiques publiques et d'investissements qui sont programmés, parce qu'il va falloir retrouver une sérénité financière. Et ça passe aussi par une gestion du personnel qui soit peut-être mieux répartie par rapport aux politiques publiques qui sont demandées. Mais c'est sûr que pour avoir fait un petit peu le tour de certains services, on a eu beaucoup de chargés de mission qui ont été embauchés sur le mandat d'avant. Et les chargés de mission avaient plutôt en termes de compétences, le fait d'appartenir à un parti politique ou à une organisation qui était proche de ce parti politique. Donc ça pose aussi question sur certains recrutements qui ont pu être faits au niveau de l'Eurométropole et ça va nécessiter de toute façon un vrai travail d'affinage, on va dire, de la méthodologie et du fonctionnement. Mais ce qui est certain, et d'ailleurs c'était un des éléments qu'on a souhaité dans le pacte de gouvernance, c'était de surtout pas utiliser le levier fiscal dans le mandat qui vient, puisque c'était quelque chose qu'on avait suffisamment dénoncé sur le mandat précédent. Je vous propose... Oui, Madame Lanchal. Oui.
Juste revenir sur le sujet du logement. On n'est pas à l'Eurométropole, donc on est bien sur des questions de taxes à Ilkirch. Et donc, je suis ravie de voir que vous prenez en compte enfin la question du Airbnb. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les deux exercices budgétaires précédents, vous avez alerté là-dessus et vous nous aviez dit « oui, bon, c'est pas très important, Ilkirch, etc. » Vous avez la possibilité de faire une modulation de la taxe d'habitation parce que nous sommes en zone très tendue pour essayer de dissuader aussi ces usages qui détournent des logements du logement des familles. Ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est par rapport vous avez aussi la possibilité de moduler la taxe vous aurez la possibilité de moduler la taxe sur les logements vacants et ça peut être aussi un outil quoi, hein, c'est, voilà. Donc c'est des sujets, vous nous les aviez renvoyés du revers de la main, je suis bien contente que vous en soyez enfin conscient, il faut que le logement serve pour les familles.
Sachant qu'on avait balayé le sujet à l'époque, puisqu'on n'avait pas cette problématique. La problématique, elle est quand même très récente sur les Airbnb, puisque c'est depuis que Strasbourg a pris un certain nombre de mesures. Et en fait, on a vu que depuis que Strasbourg a verrouillé un certain nombre de choses à Strasbourg, on a un report qui se fait dans l'ensemble de l'agglomération. Et d'ailleurs, tous mes collègues maires aujourd'hui ont cette problématique-là. Donc c'est pour ça qu'on a demandé de travailler au service sur ce sujet-là. Mais je pense qu'un des meilleurs outils, au-delà de toutes les taxes et tout ça qui peuvent être mises en œuvre, c'est quand même le plan local d'urbanisme, puisque en fait aujourd'hui, le plan local d'urbanisme, s'il est modifié au sujet des Airbnb, permettrait de faire que quand vous faites des travaux à l'intérieur d'une maison que vous rachetez pour en transformer ça en Airbnb, d'obliger à aller dans la sous-destination logement, hébergement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut acheter n'importe quelle maison, faire tous les travaux qu'il souhaite, faire par exemple 4 appartements dans une maison, et il n'y a aujourd'hui aucun contrôle possible. Alors que si on changeait la sous-destination du logement en question, parce que c'est cadré dans le plan local d'urbanisme, déjà ça donne des moyens aussi légaux à la collectivité pour pouvoir limiter les choses. Et ça c'est extrêmement important, puisque c'est déjà un premier garde-fou avant même de taxer, de faire plein de choses, c'est de se dire on ne peut pas juste acheter des logements et les transformer comme on veut pour en faire une activité qui est finalement une activité commerciale et qui souvent pose problème dans le secteur, puisque au-delà des nuisances que ça peut engendrer par rapport à certains individus qui peuvent être un peu indélicats dans leur pratique du séjour, On a aussi le problème du stationnement dans la rue, hein, puisque forcément, comme il n'y a pas eu de changement de destination, finalement, la personne met 4 logements, sauf qu'elle ne met pas 4 places de stationnement qui accompagnent ces 4 logements. Et donc, on se retrouve avec plein de voitures dans la rue parce qu'il n'y a pas eu aussi cette prise en compte du stationnement. Et ça se fait parfois dans certaines petites rues. Et donc, c'est vrai qu'on a ce sujet-là qui vient. Mais c'est sûr que ça sera un sujet sur lequel je travaillerai. Je peux vous dire que mes équipes à la métropole sont pleinement mobilisées sur ce sujet-là, puisqu'en fait, à un moment, il faut avoir une vision de territoire. Il ne suffit pas de prendre des mesures dans telle commune, dans telle commune, dans telle commune, puisqu'on voit bien que quand Strasbourg a pris des mesures, ça nous a réparti l'effort sur l'ensemble des communes autour. Donc à un moment, on a la chance d'avoir un outil qui s'appelle l'Eurométropole de Strasbourg, qui a quand même une compétence en matière de logement qui est peut-être un peu plus importante que celle des communes, puisqu'il y a eu un choix de transférer un certain nombre d'éléments de logement en termes de compétences à la métropole. Utilisons la métropole pour pouvoir cadrer ces choses-là et faire bassin de vie avec des règles en commun sur 33 communes. Je pense que ça fonctionnera quand même beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus bénéfique à nos habitants. Et je pense que le potentiel de logements vacants, si on en récupère sur l'ensemble de la métropole, sera bien plus important que si chacun fait sa petite politique de son côté. En tout cas, c'est ma vision des choses. Du coup, je vous propose de pouvoir voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Parfait.